16h59. Est-ce que c'est le fait d'avoir jasé de plan de retraite avec Alex Leblon qui a causé une séquence en chaîne de crise de panique? Et là, tout le monde a pris le clos en même temps. Je sais pas. Il faut surveiller Audrey dans son retour vers le domicile. J'aimerais ça être un petit oiseau, m'installer sur le bord de la fenêtre quand elle va rentrer chez elle. Son chum va être assis bien tranquille dans le salon, sur le divan. Elle va arriver les pattes en l'air. Ça nous prend un plan de retraite!
Ton chum en a probablement déjà un, mais faire une rencontre pour un plan de retraite, ça peut être stressant. Mais c'est comme repousser de se séparer de quelqu'un avec qui ça ne fit pas. C'est jamais le fun à faire, mais mon Dieu que ça fait du bien après.
Un gros comparatif, mon Dieu.
Moi, c'est drôle. Je prends une image qui est complètement différente. C'est juste que, tu sais, quand tu connais pas ça, fais confiance à quelqu'un qui connaît ça.
Oui.
Moi, je suis pas capable de voguer tout seul dans, là-dedans. J'ai pas les connaissances, j'ai pas l'intérêt. J'ai besoin que quelqu'un me prenne par la main puis me montre quelque chose. Puis j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un il y a plusieurs années qui m'a allumé sur quelques affaires. Puis je suis un gars qui a toujours dépensé à peu près selon ses moyens. Quand j'ai commencé à travailler, je faisais pas un énorme salaire quand j'ai commencé ici à Québec, puis j'arrivais sans trop regarder mes affaires. Mais c'est pas parce que tu arrives sans trop regarder tes affaires que t'économises ou que tu planifies. Puis si à un moment donné, ben tu veux t'acheter une maison, par exemple, ben là, ça te prend un plan. Si à un moment donné, tu as des imprévus, ça, c'est l'autre affaire, moi, que je n'étais pas capable de gauger. Tu parlais d'avoir différents comptes. Moi, j'en ai un pour les imprévus parce que moi, ça me sécurise. Ouais. Ça me fait du bien. J'ai de l'argent là. Puis des fois, je l'oublie. Puis à un moment donné, je panique, je regarde mes affaires, je dis, hey, j'ai plus d'argent. Je dis, non, tu as trois autres comptes. Calme-toi. T'en as là, puis t'en as là.
Moi, tout te mettre dans un REER, ça me stressait parce que tu peux pas le sortir. Dans ce là, tu te fais un CELI un peu comme Denis pour les imprévus, puis tu le laisses augmenter, puis tu jettes pas un œil là-dessus. J'en ai pour les voyages pour chaque année.
Ah ouais, t'as
parce
ça?
Parce que j'aime ça voyager et je veux pas voyager à crédit. Parce qu'après ça, quand tu te voyages, tu te prives de certaines affaires. Fait que je fais le sacrifice, entre guillemets, de mettre de l'argent de côté spécifiquement pour ça. Fait qu'après ça, tu l'as, tu le vois fructifier en plus de ça. Mais tu sais, t'as pas besoin de l'avoir pour tout, mais pour des éléments qui vont te sécuriser, tu le fais.
Qu'est-ce qu'on a dans la circulation, Audrey?
C'est quand même difficile en ce moment sur la capitale Est entre Henri IV et Laurentienne. Direction Ouest, c'est concentré entre Henri Bourassa et Laurentienne. Il y a quelques ralentissements si vous êtes sur Robert Bourassa Nord entre Charest et la capitale. Charest Est entre Henri IV et Robert Bourassa, c'est complexe. Si vous êtes sur Henri IV Nord à la hauteur de la capitale, il y a un ralentissement inhabituel. Direction Sud sur Henri IV, ça commence à peu près à Charest jusqu'à l'entrée du pont. Pareil pour ce qui est du Plessis Sud. Et la 20 direction Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Que ça va se passer. Quoi que ce soit d'autre, c'est le 418-971-1012, tout simplement.
Oui, ça vient de rentrer. Hey, c'est malheureux. C'est dans le coin de Deschambault. On nous signale une sortie de route. C'est une cycliste qui se serait enfargée dans des noyaux de cerises.
Les horaires sont en plein visage, en fait. Ça a été lancé d'une voiture.
Dommage. Une conductrice négligente, probablement.
Ah, fait que c'est une pratique qui est répandue à Deschambault.
Faut croire que vous faites tout ça dans votre coin. Hein. Hey, on a tous des domaines où ce qu'on comprend juste pas. Moi, ma sœur pratique un sport qui est très particulier, qui est le kitesurf. Je comprends fuck all. Défaire les nœuds dans la toile, aller sur le Saguenay, il fait fret, même quand il fait chaud. Tu bois de l'eau, t'as la gastro à l'année longue. Je ne vois aucun plaisir dans cette...
C'est ton sapeau, hein?
Mais tu sais, moi, ma sœur, c'est une passion. Sa vie, en grande partie, est dictée par cette activité-là et je ne comprends rien du plaisir qu'elle a à faire ça. Je le vis souvent à l'autre bout du spectre aussi. Quand j'essaye d'expliquer ma passion pour la lutte à quelqu'un qui ne comprend pas ça, premièrement, je vois que je perds de la salive et beaucoup de temps. Et deuxièmement, à un moment donné, tu te sens, tu dis « Ouais, là, je suis dans ma bulle puis j'essaye d'entrer quelqu'un dans ma bulle qui ne rentre pas dans ma bulle. » Il y a tous des domaines de même qu'on ne comprend pas que d'autres comprennent bien. Et Audrey a décidé de plonger elle-même dans un domaine qu'elle ne comprend pas du tout. Ça fait une couple de fois qu'elle ouvre la porte en ondes. Les mangas, elle connaît pas ça. Elle pensait encore que c'était des affaires avec des tentacules.
Non, franchement.
Fait qu'il a fallu la démêler. Puis c'est un auditeur qui t'a comme tendu une perche. La dernière, c'est quoi? C'est hier c'est qu'on en a parlé en ondes?
Vendredi, en fait, quand il y a eu les sorties cinéma, oui. IQ, c'est même qui s'appelle le film, Véro, IQ, c'est ça, tu vois, en partant déjà. Puis c'est Alexandre Lachance, un de nos auditeurs, qui m'a écrit. Lui, il est représentant commercial pour Interforum Canada, qui diffuse à peu près une dizaine de maisons d'édition manga. Puis c'est un grand amateur de manga depuis plus de 30 ans. Fait qu'il était quand même bien équipé pour m'aider.
Lui, est dans sa bulle.
Oh, vraiment. Puis c'est rare que je maîtrise pas pantoute un sujet, mais honnêtement, il a fallu que je fasse de la petite recherche puis qu'on jase un bout pour que je comprenne où je m'en allais.
Il y a deux sujets où Audrey est perdue à ce point-là, les mangas et, vous aurez deviné, la circulation.
Moi, j'ai le bonhomme. Mon seul contact avec les mangas, ça a été l'émission de Naruto. Puis je m'en suis rendu compte un matin, hey, j'ai déjà écouté ça, Naruto, mais c'est la seule affaire qui me rapproche de près à cet univers-là. Fait que, évidemment que la première question que j'ai posée à Alexandre Lachance, puis vous allez l'entendre, c'est quoi un manga?
Le manga, c'est de la bande dessinée asiatique, principalement japonaise. Donc ça, c'est la base. Donc les plus vieux vont reconnaître Albator Goldorak comme de l'animation japonaise, sans qu'ils sachent. Mais effectivement, c'est Dragon Ball, Naruto, maintenant One Piece, qui a même été adapté en série sur Netflix. Donc ça provient tout de l'univers du manga. Donc on parle d'une bande dessinée japonaise d'environ 200 pages, qui se lit en sens de lecture japonais, donc de droite à gauche, qui est en noir et blanc. Donc ça, c'est les principales caractéristiques de qu'est-ce que c'est qu'un manga. À la base, au Japon, c'est publié dans des magazines de pré-publication et ces magazines-là sont orientés vers des publics cibles. Donc, exemple, le Shonen Jump Magazine, qui est le magazine le plus connu, qui a publié Dragon Ball et Naruto, entre autres. En fait, Shonen veut dire jeune garçon ou jeune adolescent. Donc, c'est orienté, c'est des lectures qui sont orientées normalement pour les jeunes garçons, même si, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui vont en lire. Et il y a même des adultes qui en lisaient quand ils étaient plus jeunes, qui vont continuer à lire des publications orientées pour les jeunes garçons. Donc, il y a la même chose pour les jeunes filles. Il y a le shoujo. Pour les adultes, il y a le seinen. Mais c'est des créneaux beaucoup moins importants, beaucoup moins commerciaux, disons.
Bon, ben, je viens de réaliser que j'ai bercé dans les mangas lors de mon enfance sans le savoir, parce que là, Goldorak puis Albator, là, tu viens de toucher les points sensibles de ce qui a fait vibrer mon enfance.
En fait,
là,
tous les dessins animés qu'on a regardés étant jeune où un enfant qui dormait faisait des ballons de morve, c'est des mangas. C'est ça? J'ai suivi?
Oui, oui, des larmes. Des larmes. Heureux ou fâchés, il y a des larmes qui sortent des oreilles.
La ballonne de morve dans la narine, je ne l'ai jamais compris.
Oui. L'image est faute parce que c'est vrai. Fait que c'est vraiment par catégorie. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Parce que j'ai demandé, y a-t-il un public cible? Puis il me disait, écoute, oui, les jeunes garçons vont avoir tendance à lire plus de manga parce qu'ils se sentent un peu sollicités par les histoires, je vais dire. Là. Mm-hmm. C'est pas, les jeunes gars lisent pas beaucoup, contrairement aux jeunes filles, dans les statistiques de base. Fait que c'est sûr que ça fait augmenter les stats des mangas. Mais ce qu'il me disait, c'est que, mettons, t'es un adulte, puis je sais pas, moi, t'aimes le vin, ben tu vas trouver un manga pour toi. T'es une petite fille qui me le baissait, que tu vas en trouver un aussi. Il y en a vraiment pour tous. Puis on a beaucoup la perception que les mangas, c'est violent, il y a de la bataille. Mais Alexandre me disait, c'est pas mal plus que ça. Il y a un principe de super morale dans les mangas. Tu sais, l'esprit du samouraï, fait que de se lever après un échec, la persévérance, l'amitié, fait que ça rejoint les gens depuis relativement très longtemps.
Est-ce que Le Petit Castor et Démétane étaient des mangas?
Je
pose la question sans le savoir vraiment, parce que la morale de ces deux dessins animés-là, c'est quand t'es pauvre, tu vas crever. En gros, c'était
non,
ça.
Non, il y avait de la résilience.
Ben là, de la résilience. Dur à voir, là. C'était de la résilience pour avoir d'autres coups de strap puis se faire bommer encore par l'écrevisse.
Si la morale, c'est ça, je pense pas que ça rentre dans les mangas, selon ce que j'ai compris.
Peut-être que j'aurais dû me rendre à la fin, là, mais tabarnak. Que c'est Le Petit Castor puis Démétane était terriblement misérable.
Mais tu sais, aujourd'hui, là, je veux dire, t'en as pour. Il y a des films, il y a des téléséries, il y a des jeux vidéo, il y a toutes sortes d'affaires, mais le succès des mangas a débuté fin 80, début 90 avec l'arrivée d'Akira, Dragon Ball, Naruto en 2002 et compagnie. Puis c'est un peu comme les films de super-héros, en fait. Ils ont pris leur place à l'écran par la suite avec les jeux vidéo et tout et tout. Fait que l'univers est super grandissant puis les gens ont un sentiment d'appartenance qui est complètement fou. Mais malgré ces explications de départ, je comprends pas encore ce qui en fait le succès. Fait que je lui ai demandé.
Ben, y a des séries qui sont quand même très longues puis qui s'étalent sur plusieurs années. T'sais, si on compare, exemple, à Harry Potter, encore aujourd'hui, il y a des adultes qui sont fans finis de Harry Potter qui ont lu dans leur jeunesse. Donc, c'est sûr que la longueur des séries, en plus de l'implication émotionnelle qu'on voit dans ces personnages-là parfois grandir, donc ça peut jouer assurément. Dans mon cas, ben c'est sûr qu'il y a de l'exotisme là-dedans. Donc, contrairement aux histoires qu'on voit de France ou qui proviennent des États-Unis. Le Japon, c'est tout un monde qui est différent. Donc, c'est des légendes qui sont différentes, des références culturelles qui sont différentes. Donc, c'est vraiment très dépaysant. Puis ça amène une touche d'exotisme qui est quand même rafraîchissante puis qui nous amène à voir autre chose. Là, en ce moment, sur Disney+, la série Shogun fait un tabac. Je pense que c'est un peu tout dans cette lignée-là aussi, là, tu sais, donc la curiosité par rapport à l'esprit des samouraïs ou ces genres de thématiques-là qu'on voit peut-être moins exposées au grand public.
Je pensais à tort, quand j'étais plus jeune, que les mangas, c'était tellement culturel que ça pouvait pas franchir les frontières du Japon. Puis quand je suis arrivé ici à Québec, tu avais des magasins spécialisés, oui, qui avaient des bibliothèques au complet.
Tu avais des gens qui portaient des chemises de manga.
Oui, puis tu sais, je me disais, bon, ben là, ça prend un propriétaire un peu fêlé qui se commande des affaires pour son propre plaisir. Mais là, tu rentres dans le magasin, puis le monde font littéralement la file en avant de la bibliothèque, puis tu fais « Non, OK, t'as peu, là. » C'est vraiment un succès à l'extérieur du Japon, puis il y a du monde ici qui tripe là-dessus aussi.
Tu sais, à Montréal, il y a un festival. C'est plus un genre de une convention, là, mais Otakuton, que ça s'appelle Otakuton, c'est en haut que ça se passe, bon, tous les ans, puis c'est vraiment fait pour les mangas. Les gens arrivent là avec des costumes, des objets, des...
Comme un Comic-Con, mais spécifique, là.
Pour les mangas, c'est les gens capotent, là.
D'ailleurs, on continue de nous éduquer. Martin nous dit, le manga, c'est vraiment le livre, c'est vraiment le dessin.
Oui.
Tandis
que
tu vas voir la version dessin animé qui est
un animé. Ouais. Ouais.
Et ce qui fait que ça pogne aussi, ben, c'est que c'est pas tellement cher. C'est des petits formats. Le public est très, très ciblé, comme on se disait tantôt. Puis il y a le fait aussi que le côté, je vais appeler ça le côté streaming, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a toujours des nouveautés constamment. Fait que tu restes accroché à ta série BD, télévisée, peu importe, parce qu'il y a toujours du nouveau stock à peu près au mois pour une suite à ce que tu lis. Fait que les gens décrochent pas de ces mangas-là. C'est très populaire en Europe en ce moment, capoté, aux États-Unis aussi. Est-ce que ça a le même effet chez nous?
Oui, puis je dirais encore plus récemment, là, on le voit. Encore une fois, la pandémie, en fait, c'était un des moments où il y a eu le plus de livres qui se sont vendus. Donc, les meilleurs chiffres sont post-pandémique, mais pendant la pandémie, donc comme les gens n'avaient pas nécessairement des tonnes d'options, il y a eu beaucoup un retour vers la lecture et le manga a fait vraiment une belle figure dans cet endroit-là, particulièrement les jeunes garçons qui se sont mis à lire et à écouter beaucoup de dessins animés japonais, mais en lire beaucoup. Donc, il y a une augmentation de 50% environ des ventes de manga entre 2019 et 2023 en France. C'est sensiblement les mêmes chiffres pour le Québec. Donc, c'est vraiment impressionnant parce que même en France, en ce moment, il y a un petit ralentissement, mais au Québec, pour l'instant, on continue à garder là, quand même une progression ou une certaine stabilité. Donc, ça montre que le manga au Québec est vraiment en bonne santé et en bonne position.
Ce que je trouve intéressant, c'est que à une certaine époque, tu avais les comics qui prenaient énormément de place dans la vie des adolescents nord-américains. Là, quand on a commencé à créer les super-héros modernes, les Spider-Man, Wonder Woman, Superman, Batman et ainsi de suite, le phénomène de la bande dessinée était omniprésent. Puis c'était un peu comme ça. Tu sais, il en sortait à toutes les semaines. Fait que tu retournais au dépanneur puis t'achetais ta bande dessinée. Ça a évolué, puis dans les dernières années, maintenant, ce qui pogne, c'est des bandes dessinées événements qu'on est capable d'acheter après coup, où ce que tu as tous les volumes à peu près dans le même. Tu sais, Walking Dead a été un événement bande dessinée, les Watchmen en a été un autre. Il y a des phénomènes comme ça qui partent, mais on dirait que les mangas, c'est resté hyper étendu, puis c'est resté un peu de base là-dessus de dire tu retournes à chaque semaine puis tu vas avoir du nouveau stock. Ouais. Exact.
C'est quand même impressionnant. Moi, j'avais jamais ouvert. Tu sais, Alexandre m'a envoyé un PDF avec un exemple de bande dessinée là, qui ont publié. Puis c'est assez foqué de devoir descendre en bas complètement du PDF pour commencer de la dernière page et de lire de droite à gauche. C'est vraiment spécial.
Il y a quelqu'un qui vient de nous texter. Je travaille pour un imprimeur en Mauricie. Les mangas représentent près de 20% de notre production. C'est énorme.
Moi, il y a quelque chose qui me parlait beaucoup, puis on a effleuré ce sujet vendredi passé. La seule statistique que j'avais entre les mains avant de parler avec Alexandre, c'est celle concernant la pornographie. Parce que le hentai est très populaire au Canada. Ça se retrouve toujours dans le top 3 de Pornhub.
Chaque année, l'animé pornographique.
Exactement.
Pas au Japon.
ici.
Au Canada.
Ici. Mm. Puis là, moi, je pensais, je suis peut-être nounoune, là, mais ne connaissant pas ça, je pensais qu'hentai puis manga, c'était comme la même affaire. Mais hentai, c'est un mot japonais qui veut dire pervers.
Oh. Juste ben, ça mérite d'être clair.
Je pensais que ça voulait dire quoi, tentacule?
Mais non, mais juste, écoute, on sait jamais. Non, mais je me dis hentai, manga, même affaire. Là. Mais non, on sert de ce terme-là pour décrire le genre porno, manga. Fait que les gens sont très, très commis à tous les niveaux quand on parle de manga. Mmh. Fait que je lui demandais comment t'expliques l'engouement pornographique pour les dessins animés au Canada.
Je pense qu'il y a un attrait de continuer à explorer des univers qu'on voit peut-être un petit peu moins. Sinon, je lisais des articles quand même super intéressants qui mentionnaient que aujourd'hui, la nouvelle génération va rechercher peut-être moins de contacts humains. Donc, tu sais, des fois, des gens qui sont mal à l'aise de parler au téléphone, qui préfèrent régler les choses par courriel, donc veulent pas nécessairement avoir de la pornographie qui implique des vrais humains. Donc ça, c'est une des pistes qui a été soulevée. L'autre chose, je pense que un des principaux attraits, par exemple, ça reste que, comme ce sont des dessins, on n'est pas limité par la morphologie humaine. Donc souvent, dans le hentai, on va retrouver, exemple, pour d'autres raisons, là, mais on va retrouver des espèces de monstres avec des tentacules, ce genre de choses-là, mais on va retrouver aussi des filles avec des tailles de guêpes, mais des énormes poitrines, ou inversement, des filles qui ont l'air très jeunes, qui sont toutes menues. Donc, vraiment, la diversité corporelle, la diversité de scénarios, je pense que ça permet d'aller à des endroits où la pornographie traditionnelle ne va pas.
C'est intéressant. C'est quoi le nom de ton intervenant?
C'est Alexandre qui s'appelle Alexandre.
C'est un auditeur.
Lachance,
hey Alexandre, oui. Je trouve ça super intéressant parce que moi non plus, c'est pas un univers que je connais beaucoup. Puis pour vrai, ça me fait pas réfléchir, mais je comprends peut-être un peu mieux la patente.
Ben, tu sais, pour ce qui touche la porno, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. De ce que j'ai compris dans ces explications, là, c'est que quand tu consommes beaucoup de manga, là, les bandes dessinées, les ci, les ça, tu t'attaches à tes personnages.
T'es dans,
hein,
cet univers-là,
oui,
j'imagine.
Puis tu retrouves ces personnages-là dans des scènes pornographiques, comme si Hermione était Spornum, mettons.
Mais ça, on l'avait déjà vu. Entre autres, il y a des jeux vidéo qui se transposent dans le monde de la pornographie.
Tu sais combien de parodies il y a de la princesse là, dans, ah ouais, Star Wars? Là, je veux dire, il y a des gens qui reproduisent des scénarios, ouais, de films parce que c'est excitant pour certaines personnes. Tu sais, moi, je dirais pas non à Thor là, dans un scénario. Mettons.
Probablement, parce que tu veux voir le marteau de Thor, je te comprends puis je te connais, mais tu sais, je vais prendre quelque chose qui est moins humain, entre guillemets. J'ai trippé ces Ninja Turtles quand j'étais petit. Jamais j'aurais osé... tu comprends ce que je veux dire?
Totalement.
April O'Neil, ça aurait fait, là, mais les Tortues Ninja, je les veux pas dans patente. Là.
Mais tu sais, les Japonais ont un univers qui est tellement différent que les gens ont comme un sentiment échappatoire aussi, qui est plus prononcé même au niveau de la porno. Là.
Je vais tenter deux pistes de réflexion différentes sur qu'est-ce qui peut-être causer un intérêt ou de la fascination. Piste numéro un, on est avec une génération maintenant qui a à peu près tout vu. Puis quand tu as tout vu, qu'est-ce que tu fais? Tu veux voir autre chose. Fait que peut-être qu'à un moment donné, tu veux juste sortir du réel pour voir qu'est-ce que des gens qui font de l'animation vont réussir à créer comme affaire bizarre, comme affaire weird ou affaire perverse. T'sais, parce que nous autres, on avait de la misère à voir ne serait-ce qu'un sein. Là. C'était pire que trouver le Graal à l'époque, là, de voir un peu de porno. Fallait trouver un rack à revue qui appartenait à un père ou à un mononcle d'un établi. Ou fallait se coacher entre nous autres pour taper un film tard qui passait à bleu nuit. Souvent, on était très déçus du résultat. Il y avait pas beaucoup d'accessibilité, tu sais.
Quand j'ai parlé avec Alexandre, c'est sûr que je me suis mis à imaginer des affaires parce que je n'étais jamais allée voir de quoi pouvait avoir l'air de la porno hentai. Là, tu
fait
vois,
que tu as scrappé ton algorithme de recherche.
Oui, je suis en train de regarder ça. Puis c'est quand même, il y a une certaine limite, il y a un côté un peu réel, là.
Ouais.
Fait que tu sais, je comprends un peu le principe de tu peux aller, c'est un peu spécial que je sois là-dessus à la job, ils vont se poser des questions. Ouais, c'était pour un dossier,
t'es sûrement pas le premier dans l'Empire Leclerc Communication qui regarde Pornhub sa job.
Je confirme que non. mais c'est ça, c'est spécial parce qu'il y a une réalité qu'on est capable d'aller chercher aujourd'hui avec la technologie qui fait qu'en ajoutant le côté un peu fantaisie qu'on peut pas faire dans la vraie vie parce qu'il y a des limites. Tu sais, moi, ça me dégoûte un peu là, quand tu parles de manga avec une allure vraiment plus jeune.
Ben, moi, ouais, je pense au parce que, tu sais, mettons, les Sailor Moon, entre autres, c'est hyper populaire, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est des incarnations d'adolescentes. De savoir que ces versions-là en pornographie, moi, ça me trouble énormément, tu sais.
Mais est-ce que chez des jeunes garçons que les hormones explosent, ça peut devenir moins... comment je dirais ça? Non, c'est qu'il y a peut-être du monde qui sont mal à l'aise d'aller regarder de la vraie pornographie quand ils commencent à développer de l'excitation ou whatever, je sais pas.
Mais je souhaite que
c'est
ce soit
pas... C'est ma piste numéro 2,
oui,
ça.
Mon Dieu, si
ça va être dur de retrouver ça dans la vraie vie, par exemple.
Non, c'est ça. Si c'est ta première expérience avec la pornographie, moi, je suis pas sûr que ça vire bien. Ben, faut que t'aies vu peut-être autre chose.
Peut-être que le flow de 11 ans, il a plus le goût de voir Sailor Moon que d'aller voir de la porno avec 8 gars huilés.
Il est peut-être capable de servir juste de son imagination.
Écoute, j'ai pas de réponse. J'ai juste des hypothèses.
Mais il y a tellement d'affaires aujourd'hui. J'ai une pub sur, peut-être parce que je faisais des recherches aussi, mais sur mon Instagram, c'est des audios maintenant aussi. Tu te plugues ça dans les oreilles, puis c'est comme si quelqu'un était près de toi, là, puis tu chuchotais des affaires.
Des
là.
ASMR, là?
Non, pas ASMR. Genre quelqu'un qui est comme « Hey, ça t'excite hein, quand je fais telle affaire? » Non. Puis là, toi, tu fais l'affaire qui te dit, fait que là, c'est conséquent, tu comprends? C'est rendu qu'on n'a même plus besoin d'images. Avec de l'audio, ils font des affaires qui paraissent géniales.
Ben, on va vers une belle place, hein?
Ben, c'est parce que la porno est rendue comme le reste. C'est rendu qu'on écoute des podcasts sur mesure sur les affaires qui nous fascinent. On va chercher notre musique avec les algorithmes, nos séries. Tu sais, tout fonctionne avec ça. Je suis pas surpris que maintenant, ce soit du sur mesure à tous les niveaux. Ben oui,
à
exact.
La limite, je trouve ça même plus intéressant parce qu'on t'impose pas des images. Comprends-tu ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Tu peux utiliser carrément ta tête pour savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas.
Ça aussi, ça peut marcher encore, by the way. Hein? L'imagination, se fermer les yeux, penser à quelque chose. Là.
Mais c'est plus difficile. On n'est pas assez stimulé dans ce temps-là.
Oui, bien là, c'est sûr que si vous forcez trop, vous allez faire caca. Là.
Franchement.
J'essaie d'être mature. Maintenant. J'ai vraiment essayé d'être mature pendant 20 minutes. Là, on vient de l'échapper. C'est des choses qui arrivent. On écoute The Offspring avec Self-Esteem. Les gens qui font partie de la mouture des plaines de l'édition 2024 du Festival d'été. Et Audrey nous faisait observer à juste titre que c'est dans un mois jour pour jour que ça commence en plein cœur de Québec. C'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1.